sur Radio B. Résonance. Alain Goudard, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Un cordiale benvenuto a tutti. Résonance, un grand amphithéâtre à ciel ouvert, à l'écoute des nouveaux vents de la création. Résonance vous propose, tout au long de sa saison radiophonique, des rendez-vous spécifiques pour aller à la rencontre d'une initiative, d'une démarche artistique, d'un projet, d'un artiste. L'émission d'aujourd'hui vous invite à découvrir la vie, l'œuvre de l'un des grands poètes italiens du XXe siècle, Mario Luzi. Résonance, grâce à la commune de Florence, a pu installer ses micros ici, dans ce lieu magnifique et emblématique de la ville de Florence, qu'est le Palazzo Vecchio. Situé sur la Plaza della Signora, le Palazzo Vecchio abrite aujourd'hui le conseil municipal de Florence. Hier soir, les 6 voix solistes de Résonance Contemporaine ont donné un concert au Palagio di Parte Guelfa avec un concert et un programme entièrement consacré à la création musicale contemporaine italienne. 7 compositeurs, dont Alessandro Solbiati, Antonio Covello, Alessandro Maggini, Federico Gardella, Alessandra Bellino, Enrico Correggia et Luca Antignani, ont imaginé différentes œuvres pour 6 voix de femmes et piano à partir de certains poèmes ou fragments de poèmes de Mario Luzi. Il nous semble extrêmement important de consacrer l'une de nos émissions à cet homme, à ce poète considéré aujourd'hui comme une des voix les plus nobles de la poésie en Italie et en Europe.
Il ricordo più intenso della mia adolescenza e della prima giovinezza è quello che mi riporta a Siena negli anni 26-29. E Siena si fa conoscere da me fin dalla prima infanzia per origini familiari, perché la mia famiglia viene da quelle parti, dal territorio.
Résonance sur Radio B, émission spéciale Mario Luzi au Palais Vecchio à Florence. Pour évoquer l'homme, le poète, l'écrivain, la vie et l'œuvre de Mario Luzi, j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Maria Federica Giuliani, présidente de la commission de la culture de la ville de Firenze. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Également Isabelle Mallet, directrice de l'Institut français à Florence.
Bonjour.
Bonjour. Caterina Trombetti, vous avez été aussi l'une des collaboratrices pendant plusieurs années de Mario Luzi. Bonjour.
Bonjour.
Et puis, deux compositeurs, Alessandro Solbiati, compositeur responsable de la classe de composition au Conservatoire de musique de Milano.
Bonjour.
Bonjour. Et puis, Alessandro Maggini, compositeur responsable de la classe de dramaturgie musicale à l'Académie nationale d'art dramatique de Rome.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Bonjour. Mario Luzi est né à Castello, près de Florence, en 1914. Sienne est la campagne siennoise où il passe une partie de son enfance, marqueront sa sensibilité poétique. Durant ses études de lettres à Florence, dans les années du fascisme, il noue des relations avec les écrivains et les poètes de sa génération, comme Eugenio Montale ou Piero Bignagliari. C'est en 1935 que paraît son premier livre de poésie, La Barque, immédiatement salué. Je fais un petit parcours rapide, mais donc après, au niveau familial, il se marie en 1942 et s'installe définitivement à Florence en 1945. Et il est reconnu aujourd'hui comme un des poètes majeurs de ce siècle en Europe et comme le plus éminent représentant de cette troisième génération poétique italienne qui regroupe à ses côtés Bertolucci, Bignoni, Caproni et Sereni. Il produit une œuvre dont la maturité lui assure très tôt la reconnaissance de ses contemporains. Après une carrière d'enseignant, il sera de 1955 à 1985 professeur de littérature française à l'Institut des sciences politiques de Florence et il résidera dans cette ville dans laquelle il s'éteindra à l'âge de 90 ans le 28 février 2005. Si quelques obligations bien naturelles l'appelaient ailleurs, il revenait sans cesse et toujours à Florence. Mauro Rossi, dans le courrier de l'UNESCO d'avril 1997, lui demandait si le poète universel qu'il était n'avait pas eu besoin de s'éloigner de ses origines, de s'en défaire. Et Mario Luzi lui a répondu que non, mes origines n'ont pas été un obstacle à ma poésie, parce que Florence a toujours été, à l'exception de périodes d'éclipse, un pôle d'attraction universelle. La culture florentine est universelle ou elle n'est pas. Jamais locale ou régionaliste, elle est par essence ouverte sur l'humain, du moins depuis le XIIIe siècle. Fin de citation. Alors on perçoit bien l'attachement fort de Mario Luzi à Florence, à ses racines. Et peut-être Maria Federica Giuliani, on va peut-être évoquer particulièrement justement notre présence ici à Florence, parce que c'est une manière de rendre hommage en 2015, 10 ans après le départ, la disparition de Mario Luzi. C'est une manière aussi de rendre hommage à ce grand poète attaché à Florence.
È così. Firenze ha voluto ricordare questi 101 anni dalla nascita del grande poeta Mario Luzi, sicuramente il più grande del Novecento. E un artista, un poeta speciale per Firenze, che amiamo molto e del quale avevo un ricordo bellissimo da ragazza quando fu nominato senatore a vita. Senatore a vita a Firenze e fu fatta una festa meravigliosa proprio qua a Palazzo Vecchio perché fu non un senatore a vita qualsiasi, ma fu la festa della città.
Federica a voulu avec cette invitation rappeler l'anniversaire, le centième anniversaire, c'était l'année dernière, mais l'anniversaire c'était exactement le 20 octobre de la naissance de Mario Luzi. C'est un poète spécial et qui a laissé évidemment à Florence un souvenir très particulier. Elle-même personnellement se souvient de la grande fête qui a été donnée quand il a été, grande fête à Florence, quand il a été élu sénateur à vie.
L'occasione è stata questo bellissimo incontro di tutte queste persone, di noi che siamo al tavolo oggi e quindi ringrazio particolarmente i compositori, e Paolo Mangini, il professor Solbiati, Hélène Gotarda e la carissima Isabelle Mellet dell'Istituto di Cultura Francese.
L'occasion de cette invitation a été la rencontre de tous ceux qui sont autour de la table aujourd'hui et elle tient à remercier particulièrement les compositeurs qui sont là aujourd'hui avec nous, Alessandro Maggini et Alessandro Solbiati, et elle remercie aussi l'Institut français qui s'est associé à cela.
Perché il progetto che voi avete portato avanti rispecchia in pieno, credo, quello che era l'insegnamento del grande poeta. Questa inesorabilità della parola ultra, che va oltre proprio a quello che siamo noi, alla vita, e questo non potersi fermare della parola, e quindi questo connubio positivo che abbiamo avuto, musica e parole, penso sia proprio un rendere omaggio proprio alla sua arte e al suo essere proprio.
Le projet qui a été monté autour du grand poète était, permet de rendre hommage à l'inexorabilité de sa parole. Et en même temps, comme il y avait hier soir associé la musique et les paroles, de montrer comment aujourd'hui encore ça peut porter loin.
Merci beaucoup, Madame Giuliani. Et peut-être, avec Caterina Trombetti, nous pouvons essayer, en tout cas, d'approcher l'homme qu'il était au quotidien. Et justement, quand on voit sur des photos Mario Luzi, on voit la douceur d'un regard. En même temps, on voit la profondeur également aussi d'un regard. Et j'aurais aimé... Que vous puissiez nous dire éventuellement, voilà, comment vous ressentiez cet homme, justement.
Bene, buongiorno. Mi spiace non parlare in francese.
Ce n'est pas un souci.
Ma avremo un'egregia traduzione. Io sono veramente emozionata e felice di essere qua con questo. In questo progetto che voi state portando avanti da vari anni, dal 2010, che avete impostato questo lavoro. In Francia è già partito da tempo. In Italia abbiamo avuto ieri questa bellissima serata, concerto straordinario con delle voci splendide e con un direttore che ho veramente apprezzato tantissimo, perché Godard ha una capacità di trasmissione che si vede anche a chi non è un, come me, un esperto e professionista. Forse troppo.
Merci,
je suis désolée, dit-elle, de ne pas parler français, mais je suis extrêmement émue et heureuse d'être ici avec ce projet que vous développez depuis 2010. En France, il a déjà une certaine longévité, il existe depuis des années. Hier, c'était ici la première fois, c'était un concert exceptionnel avec des voix, mais surtout un chef exceptionnel, Alain Godard, qui a montré toute la capacité de transmission qu'il avait de cette œuvre.
Bene, io quando Alessandro Magini, che conosco da diversi anni e che conosceva anche la mia vicinanza al poeta Mario Luzi, mi ha messo al corrente di questo progetto e ci siamo incontrati anche con Alain Godard a Santa Croce, mi ha entusiasmato subito, prima di tutto perché lui stesso è una persona che si entusiasma e che entusiasma gli altri. E io credo che questo sia veramente importante, perché è il modo di comunicare e di trasmettere quello che sentiamo, e quando lo sentiamo a alti livelli così, insomma, un pubblico percepisce anche quando non comprende direttamente. E quello accade anche nella poesia di Mario Luzi. La poesia di Mario Luzi ha un livello altissimo, finisco questa frase, a un livello altissimo, usa parole anche desuete e difficili, però arriva, anche chi ascolta e non comprende la parola sente che cosa trasmette Mario Luzi, perché siamo a livelli veramente di grandissimo livello.
Grazie.
J'ai été extrêmement enthousiasmée quand Alessandro Magini est venu me trouver pour, en référence à mon expérience avec Mario Luzi, pour me demander de participer. D'abord, Alessandro Magini a très bien su me communiquer son enthousiasme et ce qu'il ressentait à la mise en place de ce projet, mais aussi... ce qui était important pour moi, c'était la poésie, de pouvoir transmettre la poésie de Mario Luzi, qui est d'un niveau extrêmement élevé, avec des paroles, des mots parfois difficiles, parfois désuets, mais qui permet, le concert l'a montré hier, encore aujourd'hui, de transmettre et que nous ressentions parfaitement ce qu'il a voulu dire avec ce concert.
Il ricordo più intenso della mia adolescenza e della prima giovinezza è quello che mi riporta a Siena negli anni 26-29. E Siena si fa conoscere da me fin dalla prima infanzia per origini familiari, perché la mia famiglia viene da quelle parti, dal territorio di Siena.
Catarina Trombetti, est-ce que également on pourrait évoquer comment s'est faite cette rencontre pour vous avec Mario Luzzi? À quel moment vous avez croisé le chemin de cet homme, voilà, de ce grand poète?
Ho incontrato Mario Luzzi molti anni fa qui a Firenze, dove entrambi vivevamo, e l'ho incontrato per la poesia, perché io stessa scrivo, e quindi negli eventi culturali di Firenze abbiamo avuto modo di incontrarci, abbiamo avuto modo di parlare di poesia, e avendo io già pubblicato un mio libro, lui lo ha avuto, e da lì è nato un sodalizio proprio di anime, perché lui ha trovato in me una corrispondenza che si vede era per lui importante, e io ho trovato il maestro, la guida, l'interlocutore giusto per me. Quindi mi sento veramente fortunata di avere nella mia vita potuto conoscerlo, avere scambiato con lui pensieri. In questi 15 anni della sua vita fino alla morte è stato un continuo quotidiano relazionarsi, esprimere il nostro vedere le cose, il nostro rapportarsi nei confronti dell'esistenza, e questo ha arricchito indubbiamente entrambi, perché nelle sue ultime libri c'è tanto dei nostri parlare, come nella mia poesia io vedo anche oggi quanto ho assorbito da lui, della sua parola e della sua capacità di sentire tutto quello che è nel creato.
Grazie.
Catalina Trombetti a rencontré Mario Luzzi il y a des années à Florence, justement, puisqu'elle écrit elle aussi de la poésie lors de manifestations culturelles, et ils ont eu l'occasion de se parler très fréquemment. Son livre à elle avait été publié, Mario Luzzi y a trouvé tout de suite une correspondance importante avec ce que lui écrivait, et elle a trouvé en Mario Luzzi un maître, évidemment. Elle est très heureuse de l'avoir connu, d'avoir eu l'occasion pendant 15 ans d'échanger régulièrement, et cette relation quasi quotidienne n'était pas seulement sur l'écriture, mais également sur autour de l'existence, la manière dont il ressentait les choses. Et dans leurs derniers livres respectifs, elle sent l'influence qu'ont pu avoir ces relations partagées entre eux.
Poète, oui, Caterina Trombetti.
Sì, vorrei dire due cose del suo rapporto con la Francia e con Parigi, che sono state importantissime per lui. Sì. Sappiamo tutti che la sua tesi di laurea fu su Mauriac, quindi già il suo interesse per la Francia era fin da ventenne dimostrato. Poi è diventato docente di letteratura francese all'università, a Scienze Politiche,
sì.
E ha coltivato sempre rapporti privilegiati con la Francia e la cultura francese. Era colpito tantissimo dalla gentilezza e dalla classe dei parigini, dei francesi, e la lingua gli piaceva tantissimo, per cui aveva nei tanti luoghi che ha visitato, e la Francia aveva il posto primo proprio. Io l'ho accompagnato in vari momenti, l'ho accompagnato a Parigi Addirittura quando nel 2002 era l'Italia che nel Salone del Libro aveva i suoi ospiti e avevano chiamato Mario Luzzi, per cui io lo avevo accompagnato, come lui mi aveva chiesto, e vidi con quale calore era accolto e quanto lui era felice di essere fra i francesi a Parigi. E veramente mi colpì questo suo amore, proprio amore per questa nazione. E vorrei aggiungere questo, però penso forse è meglio tradurre ora.
Catalina veut rappeler deux choses importantes du rapport de Mario Luzzi avec la France. D'abord, il avait fait sa thèse de laurea, c'est-à-dire son mémoire de maîtrise sur Mauriac, et ensuite il est devenu professeur de littérature pendant de longues années à l'université de sciences politiques à Florence. Il était extrêmement cultivé, il connaissait parfaitement la littérature française et il avait un rapport privilégié également avec la France. Il était très touché par la culture et la classe des Parisiens. Et la France et la culture française avaient vraiment la première place dans son cœur, même s'il voyageait beaucoup. Catalina se rappelle qu'elle a accompagné Mario Luzzi plusieurs fois à Paris, et en particulier en 2002, au moment où l'Italie a été l'invitée d'honneur du Salon du Livre. Et elle a entendu personnellement avec quelles paroles il a été accueilli en France à cette occasion, et elle a vu quel était son bonheur et de recevoir et d'entendre cette reconnaissance, et elle est encore extrêmement émue par cet amour que les Français lui manifestaient.
Alors peut-être justement vous vouliez rajouter un mot.
Vorrei dire un'ultima cosa delle tante che si potrebbero dire del suo rapporto con la Francia, dicendo che nel gennaio del 97 Mario Luzzi fu insignito della medaglia Cavaliere della Legion d'Onore dall'Istituto di Francese, cioè all'Istituto di Francese fu consegnata questa onorificenza. Ecco, per Mario Luzzi fu un grandissimo onore, grandissimo. Mi diceva che raramente veniva data questa onorificenza sia ai francesi, ma nel suo caso addirittura dice io sono italiano e mi viene consegnata una cosa straordinaria, e ne era talmente fiero e talmente che delle tantissimi riconoscimenti avuti in vita lui teneva sempre il nastrino rosso che lo rappresenta nelle sue giacche, nei momenti in cui aveva degli incontri ufficiali, delle cose, perché per lui era un segno importantissimo. Quindi noi troveremo anche le immagini di quel momento nelle foto che furono scattate allora, e comunque per Mario Luzzi è stata una cosa talmente importante che quella targhetta è andata con lui il giorno che è morto nella giacca che aveva addosso.
Grazie.
Une dernière chose à propos de Mario Luzzi et de son rapport avec la France, c'est la remise de la Légion d'honneur qu'il a reçue. Les insignes lui ont été remis en janvier 1997 à l'Institut français de Florence. Et pour Mario Luzzi, c'était un honneur immense, puisqu'il sait que cette reconnaissance est rarement donnée, déjà en France, mais en particulier aux étrangers. Et il était très, très fier de cela. Il portait régulièrement la barrette, la graffe rouge sur sa veste pour toutes les occasions officielles. Et Catalina Trombetti veut se rappeler que c'était tellement important pour lui qu'on lui a laissé sur la veste avec laquelle il est enterré.
On mesure, au travers de vos propos, Catalina Trombetti, toute l'importance que la, que la culture française et cet attachement permanent tout au long de sa vie vis-à-vis de la France. Et peut-être ça nous introduit tout directement aussi à votre présence, Isabelle Mallet, et qui va nous permettre un petit peu, en quelques mots, bien sûr, on ne va pas pouvoir retracer toute l'histoire de la présence de l'Institut, mais là, avec Mario Luzzi, avec cet attachement avec la France dont on vient de parler, ça nous permet de remonter finalement à la création, justement, de l'Institut français Piazza Onniscienti, dans un magnifique palais aussi, vers les années 1905-1907. Et j'aimerais bien, peut-être, à travers votre présence ici, qu'on indique comme ça un petit peu à nos auditeurs, voilà, cette conjugaison de cet attrait pour la France, de cette côté littérature, musicale, il y avait toute une époque très propice, et que c'est là, à ce moment-là, que se décide finalement une implantation française ici, justement à Florence.
Oui, merci de rappeler ceci. Les étrangers ont toujours été fascinés par Florence et les grands voyageurs passaient. C'était une des étapes du Grand Tour. Il y avait des colonies importantes et c'est à ce moment-là, la fin du 19e, qu'est venue à l'idée de Julien Luchaire, qui était un professeur à l'université de Grenoble, de fonder ce qui est devenu le premier institut de culture française dans le monde. Il a été fondé en 1907, ouvert en 1908 et il est dans le palais où nous sommes actuellement depuis 1911, palais qui a été magnifique, qui a été acheté par la France en 1950. C'était dès le début pour établir des liens privilégiés entre l'Italie et la France, dans les deux sens, non seulement faire connaître la culture française en Italie, ça a été important du point de vue culturel, mais pas seulement, puisqu'il y a eu quand même des étapes moins culturelles. Ça a été le lieu de propagande en 1914 pour essayer de faire changer l'Italie de camp, par exemple. Et je reviens à la culture, c'était aussi un lieu privilégié pour montrer les liens qu'avaient les intellectuels italiens avec la culture française. Et ça s'est développé tout au long du XXe siècle. Et quand je parle d'intellectuels, je pourrais parler de la création contemporaine. C'est-à-dire que la création contemporaine française, on essayait, tous mes prédécesseurs l'ont fait, au cours de leur carrière, de montrer, de la présenter. Et il y a toujours eu un public particulièrement cultivé à Florence qui était capable de recevoir cela. Et en même temps, de montrer les liens, puisque beaucoup d'Italiens d'Italie travaillent avec la France, mais aussi beaucoup sont allés en France au moins une partie de leur parcours, une partie de leur vie, et ont travaillé avec des Français. Donc c'est l'importance de ceci qu'a pu rappeler votre présence hier à Florence.
Et c'est vrai que du coup on sent une de la part de Mario Luzzi, quand on pense à tous ces grands auteurs, Mallarmé, Racine, Valéry, Montesquieu, tout ce travail énorme en tout cas de liaison, d'intérêt en tout cas par la langue, mais aussi par tout ce qu'elle était porteuse, lui très très intéressé justement par cet aspect de la parole, du sens aussi de la parole, et de la manière dont il a aborder ces grands auteurs français pour les faire partager aussi ici avec nos amis italiens.
Oui, il a été une courroie de transmission merveilleuse parce que lui, comme auteur, comme grand poète, il était capable de comprendre, d'appréhender la poésie française et de la donner en partage ici à ses élèves, mais pas seulement, à tous ceux qui l'entendaient lors des manifestations culturelles auxquelles il participait. Et il avait une proximité vraiment très très forte. Vous vous rappeliez Mallarmé, oui, par exemple, ça c'était un de ses auteurs fétiches.
Peut-être encore cet aspect-là, comment vous sentez aujourd'hui? On vient d'évoquer à travers Mario Luzzi et bien sûr tout ce qui a découlé de cette approche des deux cultures. Comment vous sentez aujourd'hui, vous, à votre place ici, dans cette effectivement ville tellement emblématique, vous l'avez soulevé là tout à l'heure, je dirais un peu l'état de nos échanges culturels, c'est-à-dire est-ce qu'on sent toujours qu'il y a toujours ce foyer là, ou comment vous le percevez vous aujourd'hui?
On a vraiment la grande chance d'avoir un niveau de culture très élevé ici et une municipalité qui est très attentive à ça. On ne s'en rend pas suffisamment compte en France, mais si je prends ces derniers jours à Florence, on a pu mettre mettre sur pied un projet avec la ferme du Buisson au musée Marino Marini, un projet donc d'art visuel contemporain avec des performances qui resteront vraiment, qui ont marqué. On a pu voir un spectacle extrêmement important du chorégraphe Radwan Elmedeb, qui était invité par Virgilio Sieni et qui a donné sa pièce Au temps où les Arabes dansaient, samedi et dimanche soir. Donc des moments exceptionnels. Et hier soir, vraiment, je sentais cela dans le public qui était là. Ça me rappelait une phrase de Boulez qui disait, quand je programme un concert, ce n'est pas forcément le lieu ou la foule qui est importante, ce sont les 5 personnes que je veux avoir, que je veux inviter. Et elles étaient là. Et j'ai eu la grande chance, je vous dis, d'avoir cette semaine l'occasion de voir les danseurs de Radwan Elmedeb autour de cette préoccupation particulièrement importante et d'entendre les voix de votre ensemble absolument exceptionnel dans un lieu que la mairie a mis à notre disposition. Et vraiment, cette mairie, on ne se rend pas compte à l'extérieur parce qu'on vient toujours à Florence pour les choses du patrimoine.
Patrimoine, oui.
Mais combien aujourd'hui, vraiment, il y a une attention à la culture contemporaine. Il y a une exposition splendide en ce moment au Palazzo Strozzi qui permet de voir des toiles françaises qui sortent quasiment, qui ne sortent quasiment jamais. C'est pour vous montrer, vous prouver l'intensité des liens et l'importance que Florence accorde à la culture.
Résonance sur Radio B, émission spéciale Mario Luzzi au Palais Vecchio à Florence. Au sein de la langue, écrit Mario Luzzi, il y a la musique, il y a le chant. Il faut les retrouver. Le langage poétique a vécu une extension de l'expérience très vaste. Il a été multiforme. Avec la multiforméité, même comme critère, comme poétique. Tout doit aboutir à ce chant, qui peut être le chant du rêve, des songes de l'homme. C'est une inspiration qui date des origines, contenue dans les profondeurs de la langue. Fin de citation. La poésie, les œuvres de Mario Luzi ont également beaucoup inspiré les musiciens, les compositeurs. Alessandro Solbiati, vous aussi qui vous êtes aventuré, à la fois en tant que compositeur, mais aussi amoureux de la langue, comment réagissez-vous à ces propos de Mario Luzi?
D'abord, il faut que je dise que sans aucun doute, c'est Mario Luzi est le poète que j'aime plus de la poésie des dernières 70 années italiennes. Et exactement pour une raison principale, si je peux la donner un petit résumé en français de ça, c'est-à-dire j'adore les trois niveaux possibles de lecture de sa poésie, et c'est dans cette direction que j'ai travaillé. C'est-à-dire il y a un premier niveau qui c'est la beauté même de la parole du mot. La beauté, c'est aussi la musicalité. Je pourrais aussi lire la poésie que j'ai choisie en italien, aussi oui. Si personne comprend. Il y a une sorte de beauté de la sonorité.
C'est ça. Non?
Ça, c'est le premier niveau. C'est-à-dire, et pour beauté, je n'entends pas quelque chose de très superficiel, c'est-à-dire la superficialité de la. Il n'y a rien d'ornamental dans ça, mais il y a la musicalité du mot, de la parole même. Deuxième niveau. Et la force des images directes. J'adore la poésie dans laquelle la poésie que je peux lire et dans laquelle tout de suite, avant de comprendre la signification plus profonde, non, il y a quelque chose, une sorte de premier niveau de compréhension ou de force, d'énergie.
D'énergie, oui, tout d'énergie. À fait.
Avant de comprendre qu'est-ce que c'est, de où vient cette énergie. Ouais. Et la poésie de Luzi, c'est toujours comme ça pour moi. Et la poésie que j'ai choisie, plus encore pour moi, naturellement, c'est pour ça que je l'ai choisie. Le troisième niveau est que cette image a toujours une grande énergie, mais ils ne sont jamais trop, comment dire, trop explicites, trop évidentes. Parce que dans la relation avec la musique, c'est une image est trop évidente, c'est trop facile de faire une musique directement dans vie, l'image directement, c'est une sorte de descriptivité dans laquelle je ne suis pas trop intéressé. Par exemple, si je peux parler un peu de la choix que j'ai fait dans cette
absolument musique. Parce que ça me semble intéressant dans la fragmentation justement par rapport à la matière et par rapport au son et comment la langue en elle-même, la sonorité aussi vous a amené justement à faire ce travail sur la matière à partir de là.
Ici, dans la poésie que j'ai choisie, il y a d'abord une très forte, très dure, très directe division en deux parties. Si je lis la première partie, personne ne peut s'imaginer qu'à la fin, la poésie va terminer dans la deuxième partie. Le début, par exemple, c'est un début très dur. En effet, le premier mot, c'est vraiment durissimo, très dur, non? Et tout de suite avec un oxymore, c'est-à-dire durissimo silenzio, très dur silence.
Silence.
Ils sont deux choses, non? Un peu contre l'autre, par exemple. Et la première partie de la poésie, c'est une sorte de partie sans espoir aucune. Il parle toujours d'une séparation irrévocable entre l'homme et le ciel. Et là aussi, il y a une sorte de duplicité, humanité, terre, ciel, mais avec une sorte de mur qui dans l'impression d'être qu'il soit impossible de le casser. Il parle de comparse, je ne sais pas comment dire, la disparition des anges qui sont rentrés dans le verbe, c'est dans Dieu, ils sont éloignés de l'homme, mais non. Par contre, tout de suite, à la fin, il y a une partie qui pour moi c'est vraiment très très émouvante. C'est la traduction française. Excuse-moi, Mario Luzi, mais c'est
sans souci.
Oh âme du monde. Il commence avec Oh anima del mondo. Je peux le dire en italien aussi. C'est-à-dire Oh âme du monde. C'est une sorte d'invocation à l'âme du monde. Qu'est-ce que c'est l'âme du monde? C'est impossible de dire. C'est pas l'âme de l'homme. Hein, c'est l'âme du monde.
Oui.
da tutto ferita, da tutto risarcita, ça c'est difficile pour moi à traduire de, que tu es blessé par tous. Oui. Et risarcita, c'est impossible pour moi. Payé, je ne sais pas. Mais surtout, tout de suite après, il y a ne pleure pas. Oui. Ô âme du monde, ne pleure pas. Après, la force, l'énergie, les mots très durs de début, tout de suite après, tu dis oui, mais tu, âme du monde, ne pleure. Ne pleure. Et il dit, dans le sommeil, il dit son. Sa amoureuse, son amoureuse, lungimiranza, c'est un mot italien, c'est une parole, c'est un mot extraordinaire. Lungimiranza, ça signifie voir dans loin, mais voir loin dans le temps, on parle dans l'espace, non? Qu'est-ce que c'est? Cette lungimiranza, c'est amoureuse. Et ce changement de. Pour moi, j'ai construit la pièce comme ça, c'est-à-dire, il y a une première partie qui travaille toujours sur le contraste très dur, il y a un piano qui commence très dur, et avec les voix très piano. C'est le contraste entre le durissimo et le silence. Et je change de clim tout de suite à la fin, avec une douceur qui vient tout de suite et que personne ne peut prévoir qu'elle arrive. Et ça, c'est mon façon d'entrer dans la poésie de Mario.
Je propose qu'on écoute, tout à l'heure c'était Luca Antignani, un petit extrait de Nommé non nommé, oui. Et là qu'on puisse entendre peut-être ce début justement qui va exprimer tout ce que vous venez de dire dans la dureté et en même temps ce silence et déjà toute cette évocation que un petit extrait de oui. Durissimo Silenzio. Résonance sur Radio B, émission spéciale Mario Luzzi au Palais Vecchio à Florence. C'était donc un petit extrait de Durissimo Silenzio, une œuvre d'Alessandro Solbiati pour six voix de femme et piano, interprétée par les six voix solistes de Résonance Contemporaine avec Ancuzza Aprodu au piano. Alessandro Maggini, on vient d'entendre justement et de très belle manière. Comment Alessandro Solbiati, lui aussi, à la fois de par sa propre démarche, déjà de compositeur, travaille à partir du mot, et comment en même temps la poésie de Mario Luzzi l'a amené sur ce chemin-là. Pour vous aussi, vous vous êtes aventuré également dans ce rapport aussi à la langue. Alors je sais qu'en plus, c'est un point fort pour vous, là.
Oui.
C'est quelque chose à laquelle vous avez des attaches
oui, très
profondes.
Fort.
Très
oui, fortes, très fort, très profondes.
Déjà
oui.
En tant que compositeur, et puis on parlait cet attachement de Mario Luzzi à la culture française. Il en est de même pour vous et à la littérature en général. Oui. Et aussi par quel angle, aussi par quel chemin pour vous cette poésie, cet homme aussi qui est Mario Luzi, voilà, vous a conduit aussi à s'aventurer, aussi à essayer au travers de la matière musicale, la matière sonore, à là aussi à se rapprocher de et apporter aussi cette parole.
Oui, oui, je me permets de répondre avec une citation,
mais oui,
du philosophe Sergio Givone, oui, qui enseigne ici à l'Université de Florence et qui a étudié la poésie de Mario Luzi du point de vue philosophique aussi,
oui,
et esthétique,
esthétique
évidemment. Et je crois qu'il a très bien compris la nature la plus intime de la parole de Mario Luzi en rapport au son. Et je cite ce qu'il avait écrit dans un essai qui s'appelait « Voix et silence » en Luzi, c'est qui avait avant dit Alessandro Solbiati. Alors, écrivait Sergio Givone, la parole poétique se dégage librement en détruisant la grande masse du silence. Mais avant tout, c'est le son qui trouve un passage vers le monde des significations, comme si le mot a été précédé par une modulation qui ondule la surface lisse et impénétrable du silence pour la convertir en vague. Turbulence d'eau qui résonne, régurgitation désormais proche de la gorge. Alors,
je trouve que c'est vraiment par rapport à ce qu'évoquait tout à l'heure Alessandro Solbiati,
on est vraiment
dans cette même analyse et ce même regard.
Oui, c'est donc le son, la force originaire qui conduit à la signification. Le son, qui est une vibration mystérieuse, qui ondule la mer du silence et révèle la pensée. Alors, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est les sons qui annoncent la signification du son. Et ce qui disait Alessandro Solbiati aussi, c'est l'émotion la plus forte pour un compositeur, parce que les sons de le mot poétique a quelque chose de mystérieux qui annonce la signification. Et ça c'est le sujet autour duquel Luzi a écrit beaucoup de poèmes. Et c'est aussi pour ça que nous avons choisi la parole comme sujet et comme objet de la poétique de Luzi pour choisir les poèmes à mettre en musique. Les poèmes que j'avais choisis, c'était un texte dans lequel l'immédiateté d'un langage plus symbolique qu'hermétique se révèle à travers une structure qui, tout en reflétant les formes anciennes de la tradition poétique italienne, n'étouffe pas la nécessité d'une langue en métamorphose perpétuelle et à la recherche de nouvelles expériences expressives. Cet équilibre entre la conscience du passé et le désir d'une évolution m'a incité à traduire en partition le poème de Luzi.
La sera è roccia, la sera è roccia.
Résonance sur Radio B, émission spéciale Mario Luzzi au Palais Vecchio à Florence. Alessandro Maggini, en court extrait, mais je pense qu'au travers justement de l'extrait de Père Nommé que nous venons d'entendre, avec les six voix solistes de Résonance Contemporaine et Ancuzza Aprodu au piano, on trouve aussi cette force justement du son, de la parole, et en même temps dans le choix aussi, je dirais, de l'écriture timbrale également, la matière, comment la jonction, la superposition, l'osmose aussi, donne une force aussi aux mots, justement.
Oui, c'est dans la structure du son de la parole, du luzzi, que j'ai cherché la structure polyphonique et surtout les rapports entre les voix et les pianos.
Et le piano.
Qui a été très difficile pour moi à trouver parce que le langage du son, le langage du mot, mais c'est que j'avais dit en avant, la force du son de la parole. Alors c'est le piano qui amplifie cette émotion du son de la parole de Luzzi, qui l'annonce et qui si traduit dans la parole même.
Alors, voilà, nous arrivons bientôt au terme de cette émission, mais je voulais revenir vers vous, Madame Maria Federica Giuliani, avec tout ce que nous venons d'entendre autour de ce micro, autour de Mario Luzzi et de tout ce qu'il a généré. Comment vous voyez, vous aussi, le fait que ce que peut générer justement cette œuvre ici, encore aujourd'hui, pour Florence, on a entendu avec les propos de Isabelle Mallet toute la dynamique que la municipalité, la commune justement aujourd'hui accorde à la création contemporaine. Comment vous voyez, comment cette force encore de Mario Luzzi présente ici tout ce qu'il a amené et toute cette force de création, la mairie souhaite continuer à accompagner cette dynamique-là, l'amplifier, lui donner encore des essors plus importants?
Beh, sicuramente è una grande soddisfazione essere arrivati ad avere questo concerto a Firenze, quindi ancora una volta grazie a voi tutti. Una soddisfazione personale questo concerto nel segno più alto della parola di Mario Luzzi, e quindi aver combinato la sua parola, aver tradotto la sua parola, che appunto, come si diceva all'inizio, era proprio l'essenza, questa infinito della parola, insomma, e arrivare dritta al cuore. Per noi amministrazione comunale è una sfida ulteriore vinta, perché quello che, come veniva detto prima bene dalla dottoressa Isabelle Mallet, il comune di Firenze è chiamato a uno sforzo ulteriore oggi, quello di declinare e di far convivere il passato e il futuro, e quindi il contemporaneo. Tradotto oggi, penso che con questo concerto noi l'abbiamo tradotto al meglio, evocando un poeta meraviglioso che veramente è stata la storia del Novecento, ma siamo riusciti veramente a tradurre concretamente questo sforzo che l'amministrazione appunto si prefigge con forza, insomma, di dare spazio al contemporaneo, non dimenticando ovviamente il nostro glorioso passato. Firenze è un museo a cielo aperto e quindi va da sé, però siamo riusciti con questo concerto a portare l'attualità nella memoria.
Merci.
C'est une grande satisfaction pour nous d'avoir eu ce concert à Florence, et on vous en remercie encore une fois, parce que c'est la traduction au niveau le plus élevé de la parole de ce poète, de cet immense poète Mario Luzzi. Et pour l'équipe municipale, c'est un vrai défi aujourd'hui de juxtaposer et de faire vivre côte à côte le passé et le futur. Là, c'en était un exemple parfait. C'était la traduction d'une des plus grandes voix du XXe siècle, avec des sons totalement contemporain, et où mieux que dans ce musée à ciel ouvert qu'est Florence. Donc encore une fois, merci.
Nous arrivons donc au terme de cette émission spéciale de résonance consacrée au grand poète italien Mario Luzzi, une émission enregistrée le 21 octobre dernier au Palais Vecchio à Florence. Merci à vous, Maria Federica Giuliani, pour nous avoir permis de réaliser la présente émission dans ce lieu si emblématique, hein, au cœur de la cité florentine. Merci également à vous tous et toutes pour vos précieux témoignages et votre présence. Merci à Isabelle Mallet pour aussi la traduction et nous avoir permis justement d'être en lien direct là aussi avec la parole de nos amis italiens. Je vous remercie aussi pour votre collaboration également pour la à nos côtés de l'Institut français dans cette présence ici. Merci aussi à Alessandro Solbiati et aussi à Alessandro Maggini, cheville ouvrière sans laquelle nous n'aurions pas pu réaliser tout ce qui s'est passé aussi ces quelques jours autour de ce projet. Je pense aussi également à Giuseppe Scali du label Emma Vinci qui a beaucoup œuvré également dans cette présence de résonance et puis dans ce début de collaboration en tout cas ici avec vous tous. J'étais accompagné par Simon Deborne à la technique et à la mise en onde et par Nicolas Gallio à la régie générale. Cette émission de résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez podcaster, réécouter cette émission sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Que cette journée vous soit douce et à très bientôt.